Chapitre 75. Dolman Island, mardi 16 juin 1981.
Eh bien, c'est râpé, dit le pilote.
Dès que le bombardement avait pris fin, Mix avait perdu de l'altitude pour survoler le terrain d'atterrissage. La piste elle-même ne présentait que quelques cratères qu'un bon pilote aurait pu éviter avec beaucoup de chance. Mais deux arbres s'étaient effondrés sur le tarmac à son extrémité sud, tandis qu'un étang de fioul flambait à son extrémité nord. Un jet privé brûlait sur l'aire de manœuvre principale, et des carcasses fumantes étaient dispersées sur la zone d'impact et autour des ruines du hangar.
« Plus rien à faire !» reprit Mix. « On aura tout essayé. Vu la jauge, il est temps de rentrer à la maison. Et je suis sûr qu'on fera la fin du trajet sur des vapeurs d'essence. »
« J'ai une idée !» dit Nathalie. « On peut atterrir ailleurs !»
« Pas possible !»
dit Mix en secouant la tête. La visière de sa casquette bleue oscilla lentement.
« T'as vu l'état de la plage nord quand on l'a survolée il y a quelques minutes? La marée monte et la tempête n'arrange rien. Pas question !»«
Il a raison, Nat, » dit Jackson avec lassitude. « Nous ne pouvons plus rien faire ici. »«
Le cuirassé ?»
commença Mix. « Tu as dit toi-même qu'il devait être à présent à 8 kilomètres de la pointe, » coupa Nathalie.
« Oui, mais il a le bras long. Quelle est cette idée qui t'est venue si subitement ?»
Ils approchaient de l'extrémité sud de la piste qu'ils survolaient pour la troisième fois.
« Tourne à gauche !» dit Nathalie. « Je vais te montrer. »«
Tu déconnes !»
dit Mix alors qu'il survolait la pelouse à quelques centaines de mètres de la falaise.
« Ça m'a l'air parfait !»
dit Nathalie.
« Allons-y avant que le bateau revienne !»«
Pas le bateau, le navire !»
corrigea Mix par automatisme.
« Et t'es vraiment cinglé !»
Les fourrés brûlaient toujours au sommet de la falaise, là où le missile avait explosé 20 minutes plus tôt. À l'ouest, le ciel était illuminé par l'aéroport en flammes. À 5 kilomètres de là, les débris de l'Antoinette brûlaient encore, comme des braises sur du velours noir. Lorsque le cuirassé avait eu fini de bombarder l'aéroport, il avait longé la côte en direction de l'est et tiré au moins une douzaine de salves sur le manoir et ses environs immédiats. Le toit du vaste édifice était la proie des flammes. Son aile est était complètement détruite, des nuages de fumée montaient des projecteurs, et il semblait bien qu'un projectile avait frappé le patio de la façade sud, faisant exploser toutes les vitres et criblant de débris le mur qui donnait sur la pelouse et la falaise. La pelouse elle-même paraissait intacte, bien que parsemée de zones d'ombre là où les projecteurs avaient sauté. Les flammes qui rongeaient le sommet de la falaise permettaient de distinguer buissons et arbustes tout proches. Les 20 mètres de pelouse correctement éclairés semblaient praticables, si l'on ignorait le cratère près du patio et les débris qui l'entouraient.
« C'est parfait !»
insista Nathalie.
« C'est de la folie !»
dit Mix.
« La pelouse fait une pente de 30 degrés au niveau du manoir.
C'est parfait pour un atterrissage. Tu pourras te poser plus vite. Ce n'est pas pour cette raison que les porte-avions britanniques sont munis d'une plateforme d'envol en plan incliné.
« Là, elle t'a eu, mec !» dit Jackson.
« Tu parles ?»
dit Mix.
« 30 degrés ? Et même si on pouvait réussir à freiner avant de s'encastrer dans ce bâtiment en flammes, les zones d'ombre de cette pelouse, et il y en a plein, risque de dissimuler des branchages, des fosses, des jardins japonais. Non, c'est trop risqué.
Moi, je vote oui, dit Nathalie. Nous devons essayer de retrouver Saul.
Oui, renchérit Jackson.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Dit Mix incrédule.
Depuis quand un avion en vol est-il une démocratie?
Il tira sur sa casquette et regarda le cuirassé qui s'éloignait à l'est.
« Dites-moi la vérité. Ceci est le début de la révolution, pas vrai ?»
Nathalie jeta un regard à Jackson, puis tenta sa chance.
« Oui. »«
Ouais, je le savais.
Je vais vous dire une chose, les enfants. Vous volez en compagnie du seul socialiste du comté de Dorchester qui soit à jour de ses cotisations. »
Il sortit son cigare froid de sa poche de poitrine et le mâchonna quelques instants.
« Oh, et puis merde !»
dit-il finalement.
« De toute façon, on sera probablement à court de jus avant d'arriver au bercail. »
Une fois que son moteur tourna au ralenti, L'avion sembla faire du surplace lorsqu'il glissa vers la falaise blanche qui luisait à la lueur des étoiles. Jamais Nathalie ne s'était sentie aussi excitée. Serrant sa ceinture de sécurité jusqu'à s'en couper le souffle, elle se pencha en avant et agrippa la console alors que la falaise se précipitait soudain vers eux. Lorsqu'ils en furent à 30 mètres, elle s'aperçut que le Cessna volait trop bas, qu'il allait s'écraser sur les rochers.
« Ce foutu vent ne m'aide pas !»
grommela Mix. Il effleura le levier et tira doucement sur le manche à balai. Ils frôlèrent les buissons qui poussaient au sommet de la falaise et s'engouffrèrent dans un tunnel de ténèbres bordé d'immenses arbres.
« Mr. Jackson, si ce navire fait mine de revenir, ayez l'obligeance de me le faire savoir !»
On entendit un grognement sur la banquette arrière. 30 mètres les séparaient de la première tranche éclairée, et le Cessna toucha terre au moment précis où il y pénétra. Nathalie fut plus secouée qu'elle ne l'aurait cru. Elle sentit le goût du sang dans sa bouche et s'aperçut qu'elle s'était mordu la langue. Quelques secondes plus tard, ils se retrouvaient dans une zone d'ombre. Nathalie pensa à des branches tombées et à des jardins japonais.
« Jusqu'ici, ça va !»
dit Mix. L'avion traversa l'avant-dernière tranche éclairée en tressautant et replongea dans les ténèbres. Nathalie avait l'impression de grimper le long d'un mur de pierre. La roue droite heurta violemment un obstacle invisible, le Cessna dérapa et menaça de piquer du nez à 80 km/h, et Mix joua du levier, des freins et des stabilisateurs comme un organiste pris de démence. L'appareil se redressa et reprit sa course pour pénétrer dans la dernière tranche éclairée. Une lueur aveuglante envahit soudain le pare-brise. Le mur sud du manoir en flammes se précipita à leur rencontre. Le Cessna roula sur des mottes de terre et fit une embardée à l'issue de laquelle son aile droite effleura la bordure du cratère. Le patio n'était plus qu'à 5 mètres. Un parasol en lambeaux s'envola, emporté par le souffle de l'hélice. Mix fit faire demi-tour à son appareil avant de l'immobiliser. Nathalie était sûre d'avoir vu des pistes olympiques moins raides que cette pente. Le pilote ôta le cigare de sa bouche et le contempla comme s'il venait juste de se rendre compte qu'il était éteint.
« Pause pipi, tout le monde descend. Ceux qui ne seront pas revenus dans 5 minutes ou à l'apparition de forces hostiles devront rentrer à pied. »
Il saisit le 38 à crosse de nacre planqué dans un holster, glissé entre les sièges, et emporta le canon à sa tempe pour saluer
« Viva la révolution !»«
Dépêchons-nous !» dit Nathalie en s'efforçant simultanément de déboucler sa ceinture et d'ouvrir la porte. Elle faillit tomber au pied de l'avion, laissant choir son sac et manquant de se fouler une cheville. Elle attrapa le Colt et laissa le reste sur place, puis s'écarta lorsque Jackson la suivit hors de l'avion. Il ne portait qu'une lampe torche et sa sacoche noire, mais il avait passé un bandeau rouge autour de son crâne.
« Où on va ? »
cria-t-il pour couvrir le bruit de l'hélice.
« On nous a sûrement vu arriver ! Mieux vaut se grouiller !»
Nathalie indiqua la grande salle d'un hochement de tête. Cette partie du manoir était privée d'électricité, mais la lueur orange des flammes permettait de distinguer derrière la porte-fenêtre fracassée de vagues silhouettes au sein d'une épaisse fumée. Jackson se fraya un chemin à travers les dalles renversées du patio, ouvrit la porte d'un coup de pied et alluma sa lampe torche. Le rayon poignarda les nuages de fumée, révélant une immense salle carrelée parsemée d'éclats de verre et de débris de pierre. Nathalie passa devant Jackson, l'arme au poing. Elle porta un mouchoir à son visage pour mieux respirer. Sur la gauche, derrière un espace dégagé, se trouvaient deux tables couvertes de boissons, de nourriture et d'équipements radios.